Chers auditeurs de Radio Maria, nous allons retrouver Anne Merlot pour son émission Le mystère de la femme. Cette émission a été enregistrée. Pour toute question, nous vous invitons à les laisser en standard et nous les transmettrons à Anne Merlot. Bonjour Anne.
Bonjour. Bonjour à tous. Alors, voilà, aujourd'hui, je vais parler alors que je serai absente et cette émission va vous être transmise. Et voilà que cette absence est due au fait que je fais un voyage en Israël et je me suis dit que j'allais partager avec vous cette grande joie de retrouver Israël et retrouver Jérusalem et la terre que Jésus a foulée. Et cela peut très bien rentrer dans ce contexte du mystère de la femme, à mon avis. C'est pour ça que je me permets de le faire, puisqu'on est dans une émission sur le mystère de la femme. Ce grand mystère de la femme. Et je vous dirais que quand j'ai fait un séjour de presque 2 ans en Israël, il y a longtemps, il y a presque 40 ans de ça, et au moment où nous étions là-bas, c'est là que j'ai découvert la valeur de ma personne, la valeur de ma personne de femme, la valeur de mon être, alors que je ne savais pas qui j'étais. J'ai beaucoup découvert là-bas. Ce que j'ai découvert, surtout, ce sont mes racines, les racines de la chrétienté, la racine de ma foi chrétienne. Je les ai découvertes dans la foi juive. Et j'ai redécouvert donc mes racines juives. Et j'ai redécouvert donc non seulement ma propre identité en tant que personne qui fait partie de ceux qui sont associés à la promesse faite au peuple juif, par le Christ, mais c'est surtout que j'ai découvert qui était ce Christ, qui était ce Messie, auquel je croyais depuis longtemps, depuis mon enfance. J'ai découvert qu'en fait, cet homme, ce fils de Dieu extraordinaire, était de nature juive, était de race juive, que j'étais en fait amoureuse d'un homme juif. Et que c'est à lui que je voulais m'unir, et m'unir pour la vie. Et cette découverte a été quelque chose qui a commencé à m'aider à déployer mon véritable être. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler de ce qu'on peut trouver à Jérusalem pour construire notre personne, notre personnalité. Car depuis plusieurs émissions, nous essayons de faire tout un parcours vers nous-mêmes, vers la découverte de qui nous sommes vraiment et qui est ce Dieu en qui nous croyons. Et refaire cette découverte et annoncer cette vérité, que le Christ que nous allons fêter tous ces temps-ci, que nous fêtons pendant le carême, parce que j'appelle ça une fête, moi, le carême, comme comme les Anglais qui appellent ça les jours heureux, les jours joyeux, quoi. Parce que nous commémorons quelque chose d'absolument énorme qui est le sacrifice du Messie, le sacrifice de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, Messie d'Israël. Son sacrifice et sa résurrection, son ascension dans le ciel, ces événements absolument extraordinaires et glorieux que nous fêtons pendant tous ces temps de carême et de Pâques. Et c'est tellement important de réaliser que c'est le Messie d'Israël qui est venu en premier pour Israël et pour les nations en second lieu. Et nous faisons partie des nations, nous avons le privilège, nous sommes au bénéfice de cette action de Jésus qui était venu pour ramener son peuple vers le Père, pour ramener les Juifs vers le Père, pour les sortir de leur religiosité, pour les ramener à l'amour du Père. De ce fait, nous avons nous aussi pu être intégrés à ce grand salut extraordinaire, ce salut qui consiste à être ramené au Père. Et quand on est ramené au Père, c'est là qu'on découvre qui on est vraiment. Et si on est une femme, on va pouvoir approfondir ce que c'est que d'être une femme. Ce que c'est que ce mystère extraordinaire d'être une femme, d'accepter de l'être, de consentir à l'être, à ne pas chercher à être autre chose que ce qu'on est et à adhérer. Ce n'est pas facile. J'ai découvert, moi, quand j'étais là-bas en Israël, j'ai découvert que j'avais en moi une haine de moi-même importante et une haine de mon être de femme par la même occasion. J'étais habitée par une certaine misogynie. Misogynie ambiante, misogynie quand même en moi, avec une détestation de moi-même qui était assez importante. Et c'est là, à Jérusalem, que le Christ est mort, que notre Messie est mort pour nous délivrer de cette haine qui nous habite, haine de nous-mêmes, qui se manifeste finalement par une haine de Dieu lui-même. À partir du moment où nous haïssons nous-mêmes, c'est comme si nous haïssions ce Dieu qui nous a donné la vie et qui nous a mis sur cette terre. J'étais encore dans ces périodes-là à me demander qu'est-ce que je faisais sur la terre, à quoi ça pouvait bien servir. Et par un concours de circonstances extraordinaires, j'ai pu aller vivre là-bas avec mon mari, où j'avais déjà un petit garçon de 6 mois, et puis je suis tombée enceinte et j'ai accouché à Jérusalem d'un autre enfant. Il se trouve que ces deux enfants sont déjà partis vers le Père, nos deux aînés. Et quand je retourne à Jérusalem, je retourne un peu plus près d'eux, apparemment. C'est un peu le sentiment que j'ai. Je vais donc pleurer tout le long de la montée vers Israël, vers la montée depuis la mer jusqu'à Jérusalem, cette montée extraordinaire qu'on ne peut pas faire sans pleurer, tellement ça nous remplit, nous sommes remplis de se faire mémoire de la présence de Dieu et de son action dans nos vies. Et donc, on pourra dire ensemble, et on peut le dire déjà maintenant, « Oh, ma joie !» Quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur, enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble, c'est là que montent les tribus du Seigneur, selon la loi d'Israël, pour louer le nom du Seigneur. » Et vous savez que dans les psaumes, il y a toute une série de psaumes qui s'appelle le psaume des montées, les psaumes des degrés, c'est des psaumes qui étaient chantés au fur et à mesure qu'on montait vers Jérusalem, et puis aussi sur les escaliers du temple, au fur et à mesure qu'on montait les marches, on s'arrêtait et on chantait ces psaumes des montées. Et ce sont des psaumes pleins d'espérance, pleins de joie, à cause du rendez-vous avec le Père, avec le Roi des Rois, avec le Dieu qui manifestait sa présence dans le temple. Alors, j'aime parler donc d'Israël et de Jérusalem parce que c'est quelque chose de très symbolique qui nous concerne tous, qui concerne nos vies. Sur cette terre, nous pouvons voir Jérusalem, nous pouvons voir la terre qu'a foulée Jésus et nous pouvons ainsi nous représenter et rentrer dans ce symbolisme, cette image que c'est pour nous. C'est comme si les choses actuel, ce qu'on peut voir, était aussi le modèle de quelque chose de plus profond et donc de spirituel. Et j'aime beaucoup comparer mon entrée dans la terre promise, j'aime beaucoup comparer mon voyage vers Jérusalem à un chemin de conversion. Et toute ma vie, j'ai essayé de faire ce travail de conversion, de conquérir l'héritage qui nous est promis, comme l'héritage de la terre promise avait été promise au peuple hébreu, et qu'ils ont dû conquérir de grandes luttes, territoire après territoire, et ville après ville, jusqu'à ce que finalement, ils arrivent à conquérir Jérusalem. Et je compare beaucoup la conversion de mon cœur et de ma vie, je le compare à cette montée vers Jérusalem. Et tous les psaumes des montées disent aussi ces choses. Nous avons vraiment du travail à faire sur nous-mêmes pour arriver enfin à cet endroit extraordinaire qui est le Saint des Saints, le cœur du cœur de notre être et qui est symbolisé par Jérusalem. Et puis finalement aussi dans l'Apocalypse par la Jérusalem céleste qui descend du ciel et qui vient symboliser nos épousailles avec le Messie, nos épousailles avec Dieu. Et c'est quelque chose de tellement fort. Et à nos êtres de femmes, cela peut parler beaucoup. Donc, je vais comparer Jérusalem à beaucoup de choses et à beaucoup de choses que moi j'ai pu vivre aussi dans ma vie. Donc, Jérusalem comme étant le lieu du sacrifice du Fils de la promesse. Nous savons très bien que c'est dans ce, sur Sion, là, sur ce mont Sion, que Abraham a tenté de sacrifier Isaac en obéissant à Dieu et où Dieu est intervenu. C'est vraiment le lieu du sacrifice du Fils de la promesse. Et ce n'est pas étonnant que ce soit à cet endroit-là, à Jérusalem, que Dieu a sacrifié son propre Fils, son unique, son aimé, pour le donner pour nous. Et ce sacrifice du Fils, évidemment, moi, ça me fait penser à la mort de notre aîné, même de nos deux aînés, qui, comme si Dieu nous avait demandé ce sacrifice, et qui est allé un peu jusqu'au bout, mais où je sais que dans le lâcher-prise que j'ai dû faire de mes enfants, dans cette volonté de lui remettre ce qui était la prunelle de mes yeux, m'abandonner au vouloir de Dieu, ça a été pour moi l'occasion d'être libérée d'attachements qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas bons, qui étaient même toxiques. C'est donc Jérusalem, le lieu du sacrifice, c'est le lieu de l'obéissance à la volonté de Dieu, la recherche de ce qu'il veut pour nos vies. Car ce qu'il fait, ce qu'il décide, ce qu'il permet dans nos vies, lui seul peut, a un pouvoir dessus, et particulièrement sur le mal qui nous atteint, sur la mort qui nous atteint. Il est victorieux de ce mal, il est victorieux sur la mort. Je viens de le vivre encore il y a quelques jours, il y a 4 jours. J'étais dans les Alpes de Haute-Provence où j'assistais à l'enterrement d'un jeune qui est mort dans un accident de la route, exactement comme mon fils s'était tué aussi. Et toutes ces choses sont revenues à la mémoire. Et le témoignage de sa famille et puis ce que le prêtre a prêché à cette occasion était quelque chose de glorieux. Et il rappelait une chose essentielle. Et il disait, le Christ a tué la mort. Il a tué la mort. Et c'est ça qui a été annoncé dans une cathédrale remplie à craquer de monde et de gens qui n'étaient pas chrétiens, et particulièrement beaucoup de jeunes. Mais l'annonce de la victoire du Christ sur la mort était quelque chose de tellement extraordinaire, tellement glorieux, que j'en avais des frissons partout. Je veux dire, là, c'était un lieu d'évangélisation extraordinaire. Oui, nous croyons que le Christ a vaincu la mort en s'offrant en sacrifice pour nous. Et c'est notre foi. Et à Jérusalem, c'est le meilleur endroit pour en faire mémoire. Mais nous pouvons en faire mémoire en nous, dans cette Jérusalem qui est en nous, dans ce symbole de Jérusalem au fond de notre être. Là où Dieu veut faire sa demeure en nous. Lui qui veut faire sa demeure au milieu des hommes, qui nous a montré qu'il venait faire sa demeure à Jérusalem, qui venait faire sa demeure dans le temple, désormais, il fait sa demeure en nous. Et nous pouvons faire comme si nous étions vraiment Jérusalem. Et oui, dans ce lieu où le Fils a été sacrifié et où ce grand mal s'est transformé en gloire. Et je peux témoigner, moi, que la mort de mes enfants a été pour moi l'occasion, une occasion extraordinaire, de guérir de mes dysfonctions, de me guérir de mes mauvaises manières d'aimer, de mes manipulations, de mes peurs, de mes craintes. Oui, mon contrôle sur mes enfants doit être vaincu. Je dois renoncer à mes attachements. Et ça, je m'adresse là aux femmes qui nous écoutent, aux pères aussi, mais comme c'est une émission pour la femme, apprenons pendant ce temps de carême, quand nous faisons mémoire de la mort de Jésus, que ce que nous voulons vraiment apprendre à aimer en vérité, nous devons apprendre à lâcher nos enfants. Renoncer à tout comportement fusionnel, à tout chantage affectif, à toute prise de possession de l'autre, par exemple, en se croyant indispensable, en donnant toujours des conseils très sages et avisés, en s'attendant que les enfants les suivent, même quand ils sont mariés, on va leur donner tout le temps toutes sortes de bons conseils. Lâchons-les, laissons-les faire leurs expériences. C'est quelque chose de très difficile, mais je crois qu'en ce temps de carême, le Seigneur nous demande, lâche le Fils de la promesse, lâche, et Dieu pourra intervenir Si tu es là, au milieu, tu empêches Dieu d'être Dieu pour tes enfants. Faisons comme Abraham, faisons comme Marie. Obéissons, consentons à se lâcher prise et il n'en sortira que quelque chose de merveilleux. C'est difficile à croire, on a tellement peur que nos enfants souffrent, on a tellement peur nous-mêmes de souffrir. Mais c'est un terrible mensonge, cette peur, qui nous ferait croire finalement que Dieu serait dangereux pour nous. Non, le Christ est venu nous rappeler que Dieu est un Père aimant et tendre qui prend soin de nous. Ne contestons plus les décisions de Dieu. Et je sais que ce temps de carême est un temps si important pour apprendre à ne plus contester. Nous le faisons beaucoup, de contester les décisions de Dieu. Nous sommes habités par des « non, non, je ne veux pas ça, non, pas ça, oh, pas encore ça ». Apprenons avec Marie, la femme entre les femmes, apprenons à ne plus contester les décisions de Dieu. Parce qu'il est le seul sage, il est le seul bon, il est le seul parfait et il est le seul digne d'adoration et de louange. Alors voilà ce que peut signifier Jérusalem déjà pour nous, la ville du sacrifice, de l'enfant promis. Et puis Jérusalem c'est aussi, on le dit souvent, la cité du grand roi, la cité du grand roi David, du grand roi Salomon et... où il y a une promesse de royauté, promesse d'institution de royaume. Et nous savons très bien que c'est ce à quoi Dieu nous invite. Et nous invite à revêtir notre véritable identité, qui est une identité qui fait de nous des rois et des reines. Alors, soyons ces reines du royaume. Commençons à apprendre à régner et à nous comporter, non pas comme des souillons, non pas comme des cendrillons, mais comportons-nous comme la reine du royaume, celle qui est appelée à siéger aux côtés du roi, celle qui est appelée à permettre au roi de siéger en elle et à siéger avec. Il y a quelque chose de l'ordre du royaume qui doit s'installer en nous, et ce royaume va chasser le royaume des ténèbres qui nous environne souvent, qui nous environne de plus en plus dans le monde où nous vivons et où nous ne savons pas comment lutter contre le mensonge ambiant, contre la pensée unique ambiante, contre la corruption. Nous ne savons plus comment lutter et dire et proclamer la vérité. La meilleure chose à faire, c'est d'installer Jésus comme roi en nous, dans cette ville de Jérusalem en nous. Installons-le comme roi, couronnons-le comme roi et laissons-le nous couronner aussi. Et nous donner cette noblesse de la royauté qu'il veut nous conférer. Que le royaume s'installe dans nos vies, que le royaume de Dieu s'installe dans nos vies, de telle sorte que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, comme sur la terre comme au ciel. Que ce royaume fasse la jonction entre la terre et le ciel et que ça ne fasse plus qu'un. Mais de telle sorte que le jour où nous mourrons, ce sera un simple passage du royaume au royaume. Que ce ne soit pas comme si nous passions d'une terre de misère vers le royaume. Donc le royaume est déjà là, au milieu de nous, et nous pouvons en vivre parfaitement. Je ne peux pas me lasser de prêcher ça, vous savez. Comme Jésus l'a fait, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume. C'est quelque chose de tellement énorme. Levons les yeux et contemplons ce royaume. Contemplons-le au milieu de nous, en nous. Détournons nos regards de tout ce qui semble tellement négatif en nous, tellement dur à vivre, ce qui nous fait honte en nous. Et dans ce temps de carême où nous essayons de faire le bilan de nos vies, alors nous avons tendance à regarder tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est négatif, et nous avons honte, et nous sommes dans une situation un peu de constat d'échec dans nos vies. C'est pratiquement obligé, surtout si on s'est mis des objectifs de perfection, mais si on s'est mis aussi pendant ce carême, du coup, l'obligation de faire des progrès dans cette perfection, alors on va être tenté par le désespoir, la tristesse, le découragement et la frustration, à cause de la frustration de ne pas arriver à obtenir ce que nous voudrions. Donc, installons en nous Dieu, c'est lui le seul parfait, le seul bon, le seul sage, le seul juste. Si nous ne sommes pas justes, peu importe, c'est lui qui est juste. C'est ça, devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est installer le parfait en nous. Qui, à travers nous, pourra faire des œuvres de perfection? Ce n'est pas nous qui pourrons les faire, c'est lui qui les fera en nous, si vraiment nous l'intronisons en nous. Que donc cette Jérusalem céleste en nous, cette Jérusalem en nous, devienne en nous le lieu où Dieu règne et où l'enfer est mis à mort. Où l'enfer est mis à mort. Et donc, Jérusalem, c'est aussi donc le lieu de ma nouvelle naissance. C'est le lieu où j'ai pu recevoir la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume, où je l'ai reçue, où je l'ai acceptée, où j'ai laissé Dieu me sauver, où j'ai accepté son pardon. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est passer par la mort et la résurrection du Christ. Avec lui, il nous entraîne. À Jérusalem, c'est là qu'il a décidé de mourir. C'est là qu'il a décidé de ressusciter. C'est là qu'il a décidé de partir dans les cieux. Et c'est là qu'il a décidé de revenir. Nous l'attendons sur le mont des Oliviers. Les promesses sont certaines. Nous savons que c'est là qu'il reviendra. C'est pourquoi il me semble tellement important de protéger cette cité sainte, la cité de Jérusalem, qu'elle soit protégée dans nos vies, à l'intérieur de nous, qu'elle soit protégée aussi sur la terre. Personne ne peut dire que Jérusalem n'a pas d'importance pour les Juifs comme pour les chrétiens. C'est le lieu de la promesse, le lieu des manifestations de présence de Dieu. Et c'est d'une importance capitale de le dire et de le redire face à la pensée ambiante qui est en train de vouloir dire l'inverse. Et ça, je le proclamerai toujours. Je ne suis pas sioniste pour autant, je ne défends pas la politique d'Israël, je défends juste le fait, un fait indéniable, que Jérusalem est au centre de notre foi judéo-chrétienne et que Jérusalem est donc une ville, une cité importante, une citadelle importante qu'il faut défendre, absolument. Donc, le Christ est mort pour moi et moi je meurs avec lui si je veux bien. Je meurs à moi-même, c'est-à-dire à mon vieil homme, pour pouvoir renaître à ma vraie vie. Et en tant que femme, j'ai besoin d'apprendre à ne plus fréquenter ma vieille bonne femme râleuse, frustrée, mendiante, orpheline, qui se plaint beaucoup, qui est dans le gémissement, dans la grosse fatigue, dans l'impression de solitude et d'incompréhension. Cette vieille bonne femme qui est toujours en train de se plaindre, celle-là doit mourir. Elle doit mourir avec le Christ sur la croix pour pouvoir ressusciter. Là, je suis en train de parler de tout ce que le baptême peut faire dans nos vies. Normalement, on devrait aller jusqu'au bout de ce sacrement de baptême qui nous permet de recevoir la vraie vie, de recevoir la résurrection après la mort. Mais très souvent, nous restons noyés dans les eaux du baptême et nous ne sommes pas ressuscités. Nous continuons à fréquenter notre vieux moi qui ne veut pas mourir. Comme disait Luther, il disait « J'ai essayé de noyer mon vieil homme, mais le bougre, il sait nager ». Et nous sommes avec ce constat que nous voulons bien mourir à ce vieil homme et à ses comportements mortifères. Et pour pouvoir vivre d'une vie nouvelle, cette vie du royaume en nous, et vivre de cette atmosphère du royaume, recevoir les caractères même de Jésus et les fruits de sa présence en nous, nous voudrions bien ça, mais nous en sommes incapables. Mais le Christ l'a fait. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous communiquer sa vie. Alors nous avons besoin de l'Esprit-Saint. Et c'est à Jérusalem que l'Esprit-Saint est venu et est tombé sur les disciples. avec Marie, rassemblée. C'est là que le premier grand baptême de l'Esprit-Saint a eu lieu et qu'il y a eu un changement radical parmi ceux qui étaient là et parmi tous ceux à qui ils ont transmis cette grâce jusqu'à nous aujourd'hui qui sommes au bénéfice de ce baptême de l'Esprit-Saint. Parce que par l'Esprit-Saint, et en recevant le baptême de l'Esprit-Saint, nous recevons la force dont nous avons besoin et l'Esprit-Saint seul a la capacité de venir rendre efficace dans nos vies la croix et la résurrection du Christ. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, par nos raisonnements, nous ne pouvons pas, ce n'est pas parce que nous l'avons accepté que ça se fera, c'est l'Esprit-Saint en nous qui vient faire cette œuvre si nous le lui demandons. Donc aujourd'hui, demandons-lui, Esprit-Saint, viens dans ma vie, viens me délivrer de ces mauvais comportements mortifères et toxiques qui font de moi quelqu'un d'acariâtre et souvent méchant. Je désire en ce temps de carême vraiment être délivrée de cette manière de vivre tellement fausse. Et je désire vraiment, Seigneur, que tu me revêtes de toi-même, de ta propre vie. Esprit-Saint, viens le faire dans nos vies. Viens le faire dès maintenant et donne-nous de collaborer à ça. Faire ça, ça provoque beaucoup de souffrance, de renoncement à beaucoup d'habitudes. Et on a l'impression qu'on va se renier soi-même. Non, ce n'est pas un reniement de soi-même, c'est une naissance, une nouvelle naissance. Et chaque naissance se fait souvent dans la souffrance. Ça, on le sait. On le sait qu'on ne peut pas venir à la vie sans souffrance, sans différenciation, sans coupure, sans nécessité de devenir seul parmi les seuls, de devenir différencié. On est coupé de sa mère quand on est. C'est quelque chose de douloureux. Et de toute façon, la séparation se fait toujours douloureusement. Et la séparation de notre nouvelle personne avec l'ancienne se fait de manière douloureuse. Parce que notre chair ne veut pas des réalités du royaume. Elle se bat contre la vie spirituelle. Et il y a un combat qui est mené en nous. À nous de décider, avec l'aide de l'Esprit-Saint, de remporter la victoire. De manière à ce que Jérusalem soit délivrée et soit vraiment le lieu où on pourra adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus disait, c'est à Jérusalem qu'on adore. Est-ce que c'est à Jérusalem? Est-ce que c'est à Samarie? Où est-ce qu'on doit adorer? Et il disait, c'est en esprit et en vérité qu'on adore Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je crois que maintenant, on va faire une petite pause et puis on reprendra tout à l'heure. Je reprends donc maintenant l'enseignement que j'ai essayé de vous donner sur Jérusalem. J'espère que ça va vous donner envie d'y aller. En tout cas, si vous n'avez pas la possibilité d'y aller, pardon. Allez-y au fond de vous, dans le lieu profond de votre être, là où Dieu demeure, si vous lui avez donné la permission de venir vivre en vous, là où l'Esprit-Saint veut installer le Messie d'Israël comme le roi de vos vies, là où vous apprenez à régner avec lui sur votre être et sur votre entourage, à régner en roi débonnaire, en roi rempli d'amour, de tendresse, de compréhension, de bienveillance. Là où nous apprenons à voir que notre Dieu est le Dieu de la bienveillance. Il n'a rien à voir avec les images de Dieu que nous nous sommes faites, d'un Dieu lointain, sévère, exigeant. Non, c'est un Dieu qui s'est fait si proche de nous, et qui est si bienveillant que nous sommes au bénéfice de cette bienveillance. Et donc, dans ce lieu où nous pouvons le rejoindre en nous, nous allons apprendre à l'adorer en esprit et en vérité. Et ça, c'est important de se rendre compte de ce que ça signifie d'adorer Dieu en esprit et en vérité. On le comprend mieux quand on a été baptisé du Saint-Esprit et que notre vie spirituelle a pu se déployer par rapport à notre vie psychique, émotionnelle, ou notre vie sentimentale. Nous avons besoin de faire la différence entre la vie de notre âme, la vie psychique, et puis la vie de notre esprit, la vie spirituelle. L'Esprit Saint nous permet de faire la différence. Et donc, adorer Dieu dans notre esprit, nous ne l'adorons pas par le biais des émotions, nous ne l'adorons pas par concentration mentale, parce que nous nous concentrons sur lui. Non, nous l'adorons en esprit, tout simplement. Et la chose la plus extraordinaire qu'on peut faire pour adorer Dieu en esprit, c'est d'accepter le don du parler en langue, qui nous permet de prier tel que l'Esprit Saint veut qu'on prie, parce que nous ne savons pas toujours prier comme il faut. Et lui, il va nous donner les paroles qu'il faut, parce que lui, il sonde les cœurs de l'homme, le cœur de Dieu, les profondeurs de l'être humain, les profondeurs de Dieu, et il nous permet d'être à l'unisson dans une prière qui pourra être entendue, reçue et exaucée. Et donc, c'est tellement important d'apprendre à adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, qui est en train de prier qui ? Est-ce que c'est mon faux moi qui prie un faux Dieu dans le gémissement, la plainte et les réclamations avec une image de Dieu sévère ? Ou est-ce que c'est mon nouveau moi ressuscité, confiant, rempli d'espoir et rempli d'amour pour mon Dieu ? Est-ce que c'est ce vrai moi-là qui s'adresse au vrai Dieu, celui qui s'est révélé à travers le Messie d'Israël, Yeshua HaMashiach ? Est-ce que je m'adresse à ce vrai Dieu-là ou à un Dieu que j'ai inventé ? Est-ce que c'est mon vrai moi qui s'adresse au vrai Dieu ? C'est ça, prier et adorer en esprit et en vérité, le vrai moi, le vrai Dieu. Et nous devons chercher ça. Et pendant ce temps de carême, que tous ceux qui nous écoutent là se posent la question, qui en moi s'adresse à qui ? Dans quel état d'esprit je suis quand je m'approche de mon Dieu ? Dans quel état de confiance absolue ? Et est-ce que j'y vais pour l'adorer ou pour demander des choses, pour réclamer des choses, pour m'attendre à des exaucements ? Non, je m'approche de Dieu pour l'adorer, le contempler et le régaler de ma présence. Ne plus le priver de moi, puisqu'il m'aime et qu'il désire vivre avec moi dans les moindres détails de ma vie. Donc je me retourne vers lui, je le contemple, je l'adore et cela me suffit. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il sait ce dont on a besoin, il sait ce qu'on désire le plus. Mais nous n'avons pas besoin de lui demander. Tournons-nous vers lui, adorons-le en esprit et en vérité. Cherchons à être vrais devant lui, à chasser la vieille personne en nous pour être revêtus de l'homme nouveau. Et alors, il fera dans nos vies ce qui lui semble bon de faire. Et quelquefois, ce qui lui semble bon ne nous plaît pas à nous. Ça peut passer par différentes épreuves que nous ne comprenons pas pourquoi. Une chose est certaine, c'est que ce qui semble plus scandaleux dans nos vies peut être transformé en quelque chose de glorieux si nous lui faisons confiance. Jésus lui-même, quand il est mort sur la croix, est-ce que ce n'était pas une mort ignominieuse, injuste ? Et ce grand mal qui est en train de se produire, ces soldats qui le clouaient à la croix, ils avaient l'impression juste de mettre à mort quelqu'un qui avait mérité la mort. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce grand mal-là s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire. Ils travaillaient en fait à leur propre salut. Et ce grand mal a été transformé en victoire inimaginable, inouïe. Et ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font est grandiose. Mais ils vont pouvoir changer de regard. Alors quelquefois, les épreuves qui tombent sur nous et on se dit, pourquoi ? Dieu permet ces grosses épreuves sur nos vies, quelquefois des successions d'épreuves. Essayons. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner la force, de comprendre que Dieu est en train de nous former, est en train de nous attirer à lui, de nous séparer de ce qui en nous est en train de nous détruire sans qu'on s'en rende compte. C'est tellement important de laisser Dieu agir dans nos vies et le laisser agir à fond, de ne pas se rebeller, contre ce qui nous arrive, de bénir la main qui s'appesantit sur nos têtes, mais pour nous conduire vers ce qui est le meilleur pour nous, et nous ne savons pas ce que c'est. Oui, ce qui nous semble le plus scandaleux, le plus épouvantable, le plus injuste, si ça lui est livré, si on lui fait confiance, ça peut devenir la chose la plus glorieuse possible, qui nous fera du bien à nous-mêmes et à tous ceux qui nous entourent. Bien sûr qu'au moment où nous subissons l'épreuve, nous ne pouvons pas nous dire en même temps « je vis ça parce qu'après j'aiderai les autres à le vivre ». Bien sûr que non, qu'à ce moment-là, on n'a qu'une envie, c'est que l'épreuve s'arrête. Mais sachons et gardons avec un peu de recul cette vision nouvelle sur les actions de Dieu sur nos vies, sachons que tout ce qui nous arrive peut concourir à notre plus grand bien. C'est une promesse qu'il nous a faite et je peux dire qu'il l'exauce vraiment. Il l'exauce vraiment. Donc, voilà, Jérusalem, c'est le lieu pour adorer en esprit et en vérité. Et donc, je crois fermement, et nous devons croire fermement, que le Christ est réellement présent, réellement incarné en nous. Et qu'en lui, nous sommes une créature nouvelle. C'est le secret de notre vie chrétienne. Car ce n'est pas avec ma vieille nature que je peux me tenir dans sa présence, mais c'est dans mon être nouveau. Ça, il ne faut pas que nous l'oublions. Le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection ont eu pour effet de nous faire passer de l'ancienne nature à une nouvelle nature, par la nouvelle naissance. Mais il est important de se rappeler ça, et chaque fois qu'on se met en prière, qu'on cherche la présence de Dieu pour l'honorer et pour l'adorer, même si c'est tout en faisant nos tâches ménagères, nous pouvons nous tenir dans sa présence et l'adorer. Et quand nous faisons ça, faisons bien attention que ce ne soit pas notre vieux moi victimaire, mais que ce soit notre vrai moi ressuscité qui se tienne devant lui. Parce que comme ça, dans cette fréquentation-là, nous allons pouvoir entrer avec émerveillement dans une véritable amitié avec le Seigneur. Je pourrai être à son écoute, il me parlera, je pourrai converser avec lui. Je ne dirai plus « je prie, mais Dieu ne répond pas ». Je ne pourrai plus dire « je n'entends pas que Dieu me parler ». Une véritable conversation peut avoir lieu. Mais ça, c'est l'Esprit-Saint qui agit en nous et qui nous permet de vivre ces choses. Après, il ne faut pas confondre. Hein. La présence de Dieu, ce n'est pas le sentiment de sa présence. Nous pouvons très bien ne pas sentir sa présence, ça ne l'empêche pas d'être présent, parce que nous sommes très dépendants de nos ressentis, et nous avons l'impression, si nous ne sentons pas sa présence, qu'il n'y est pas, ou que nous ne sommes pas dans sa présence. Et là, notre positionnement de foi, notre combat, ce qui nous revient à nous, c'est de nous positionner par la foi et de croire que nous vivons dans la présence de Dieu et que cette présence est réelle. Voilà ce que je voulais vous dire déjà là sur comment adorer en esprit et en vérité et ce que Jérusalem nous inspire comme symbolisme à ce sujet. Je ne sais plus qui disait, attendez, je regarde une note. Oui, un missionnaire dans le centre de la Chine, il disait « Seigneur Jésus, deviens pour moi une réalité vivante et claire, plus présente au regard de ma foi qu'aucun objet visible, plus précieuse, plus intimement proche que le bien terrestre le plus doux. » C'est tout un programme. Devient pour moi une réalité vivante. Dieu est le réel. Il est plus réel que tout ce qui m'entoure, que tout ce que je vois, que tout ce que j'expérimente. Il est le réel. Et dans ce temps de carême, c'est ça que nous voulons découvrir, la réalité de l'existence de Dieu, la réalité de sa personne, la réalité de sa présence dans nos vies. Et c'est ce qui nous permettra de porter du fruit. Alors, louer en esprit et en vérité, c'est aussi se joindre à des frères pour pouvoir louer. Il y a régulièrement à la Castille, près de Toulon, il y a aussi un peu partout en France, des réunions de prière, des rassemblements de prière dans l'unité des chrétiens, des lieux où la louange existe, où il y a des groupes de louange qui nous font entrer dans la louange et l'adoration de Dieu. Ne nous privons pas de ces occasions de nous replacer dans cette présence ineffable de Dieu qui ramène à nous la Jérusalem de Dieu, ce lieu de sa présence, le lieu de son royaume, que, où nous pouvons nous tenir avec des frères et sœurs, où nous apprenons à nous aimer les uns les autres, malgré nos différences, où n'en avons plus peur les uns des autres. C'est quelque chose d'essentiel. C'est tellement terrible de voir la lutte qu'il y a actuellement pour Jérusalem entre des factions hostiles qui veulent se détruire l'une l'autre. En particulier dans le monde musulman qui veut faire disparaître l'Israël de Dieu, qui veut le rayer de la carte. Et il faut qu'on fasse très attention qu'au fond de nous, il n'y ait pas ce relent d'antisémitisme qui désire que les Juifs disparaissent. Ça a été un combat continuel pour le peuple juif. C'est parce qu'on veut que Dieu disparaisse. Quand on attaque les Juifs, on attaque Dieu lui-même. Il faut qu'on en ait conscience. Gardons donc au cœur un amour particulier pour son peuple, un amour particulier pour ses projets pour son peuple, sachant que tous les peuples alentours veulent la destruction d'Israël parce qu'ils veulent la destruction de Dieu. Et les musulmans veulent absolument faire disparaître le Dieu des chrétiens et des Juifs. D'ailleurs, pour eux, ça ne fait pas de différence. Ils nous mettent dans le même bateau. Il n'y a que nous qui faisons des différences. Les peuples alentours n'en font pas. Ils détruisent les chrétiens aussi bien que les juifs. Parce qu'il y a des forces adverses, démoniaques, qui veulent détruire le Dieu de la Bible, le Dieu en lequel nous croyons. Donc, en nous, défendons le Messie d'Israël qui est notre Messie, celui qui est mort sur la croix et ressuscité pour nous. Ce n'est pas un autre Messie, ce n'est pas un autre Dieu. Ne nous inventons pas un Messie qui serait coupé de ses racines juives, de sa mère juive, de ses disciples juifs. Restons bien imprégnés de cette vérité. Ne nous en coupons pas, ne faisons pas d'antisémitisme dans nos vies, dans nos cœurs. N'entretenons pas ces choses. C'est quelque chose de capital. Israël est la prunelle des yeux de Dieu, même s'il se conduit mal. Les promesses que Dieu a faites à Israël sont des promesses sur lesquelles il ne reviendra pas. Et les promesses du retour du peuple sur sa terre sont des promesses qui sont en train de se manifester. Et pour nous, c'est quelque chose dont nous devons nous réjouir. Absolument. Absolument. Donc défendons en nous cette citadelle extraordinaire de ce lieu où nous pouvons adorer en esprit et en vérité. Et puis, Jérusalem, c'est le lieu de l'attente du bien-aimé. Toute notre vie, nous sommes en attente de quelque chose. Quand on est jeune, on est en attente de réussir nos examens. Après, on est en attente d'épouser quelqu'un ou que quelqu'un veuille bien nous épouser. Après, on est en attente d'un enfant qui est l'accouchement tarde à venir. On est en attente de guérison. On est en attente du retour de quelqu'un. On est tout le temps en attente de quelque chose. Toute notre vie, nous avons besoin d'apprendre à attendre et à attendre de la bonne manière. Et pourquoi apprendre à attendre de la bonne manière? Parce que nous devons prendre conscience que celui que nous attendons vraiment à travers toutes ces attentes, c'est le bien-aimé de nos âmes. C'est l'époux, celui qui veut finalement nous épouser. Et que nous prenions conscience que tout ce temps que nous vivons, et particulièrement le temps du carême, est le temps de l'embellissement de l'épouse pour épouser le bien-aimé. L'embellissement de l'épouse, ça peut demander des efforts et des souffrances. On dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle. Oui, il faut souffrir pour être belle. Il faut que l'Esprit-Saint prenne du temps pour nous embellir. On dit que c'est le divin embellisseur, que c'est celui qui est là pour ça. Laissons-nous faire, laissons-nous embellir. Nous avons besoin d'être nettoyés. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être séparés de certaines choses qui sont mortifères en nous et qui entretiennent des noirceurs dans nos vies. Après, on ne peut pas se débarrasser de toutes nos noirceurs. Mais pour que la lumière de Dieu brille sur nos visages, quelquefois, on a besoin d'un arrière-plan noir. Vous savez, c'est comme dans les icônes. Les icônes, elles sont peintes de manière très particulière. Les icônes vraiment peintes à la main et qui reflètent une véritable présence de Dieu. Il y a certaines icônes qui sont extraordinaires pour ça. Eh bien, savez-vous qu'on commence par un arrière-plan complètement noir. Complètement noir. Et petit à petit, à partir de cet arrière-plan noir, on fait ressurgir les couleurs les plus sombres, après de moins en moins sombres, jusqu'à arriver au blanc de la lumière blanche qui luit sur les visages ou dans les regards de l'icône. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça retrace bien l'œuvre de Dieu dans nos vies, ce qu'il fait pour nous embellir et faire en sorte que sur l'arrière-plan noir de nos vies, il puisse faire surgir progressivement sa propre image. Car créé à son image, nous sommes faits pour refléter son image. Cette image qui a été reflétée sur le voile de Véronique, qui a mis ce voile sur le visage de Jésus, où il s'est comme imprimé. Et ça, c'est symbolique. Si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on s'en moque. L'important, c'est de savoir que nous-mêmes, si nous plaquons sur le visage de Jésus, nous allons refléter son visage. Il va s'imprimer en nous. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est si important de faire mémoire de ces choses et que l'Église, dans sa sagesse, nous fait vivre ces cycles liturgiques qui nous permettent de revenir, de faire mémoire sur les choses les plus importantes qui sont les bases de notre foi. Oui, Jérusalem, c'est le lieu de l'attente du bien-aimé. C'est le lieu de la descente de la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem céleste qui descend du ciel comme une épouse qui va épouser son époux. C'est quelque chose d'énorme, absolument énorme, cette descente. Je vais vous lire ce passage dans l'Apocalypse. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Amen. Seigneur, viens faire toutes choses nouvelles dans nos vies. Viens faire toutes choses nouvelles dans ma vie. Et que je puisse un jour vraiment être unie à mon Seigneur. Je veux connaître cette union avec mon Dieu sans aucune peur, comme une épouse s'abandonne dans les bras de son amant et se laisse aimer, se laisse conduire dans la plénitude de l'amour, avec joie. Il faut qu'on reconnaisse, un jour ou l'autre, que les grandes douleurs que nous vivons, les grandes épreuves que nous vivons, viennent de ce que nous résistons entre les mains du bien-aimé, qui veut nous conduire à l'amour, qui veut s'unir à nous. Mais nous avons tellement peur, nous nous durcissons et du coup ça provoque des souffrances. Abandonnons-nous dans les mains du bien-aimé, laissons-le nous conduire au bonheur. Laissons-le nous conduire à travers de vraies épousailles vers une plénitude de vie, celle dont nous rêvons. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à y aller. Ah, quelle merveille! Quand nous habitions à Jérusalem, nous habitions juste contre les murailles, au-dessus de la porte de Damas, dans le quartier arabe. C'est là qu'on avait trouvé du travail, que mon mari travaillait, et on avait là un logement de fonction. Et là, sur les murailles, à quelques mètres de nous, à peut-être 6 ou 7 mètres de nous à travers un petit jardin. Nous étions contre les murailles et là, sur les murailles, il y avait des soldats qui passaient, les sentinelles déjà à ce moment-là. Les sentinelles qui passaient. Et tous les jours, nous chantions ce chant extraordinaire. Tous les jours, nous commencions la journée ainsi. Et je vous le lis. C'est dans Ésaïe, au chapitre 62, verset 6. Sur tes murailles, Jérusalem, je place des veilleurs. Ni le jour, ni la nuit, jamais ils ne se tairont. Non, je ne me tairai point, je ne me lasserai point au sujet de Jérusalem, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme l'aurore et que son salut flamboie comme une torche. Je vous laisse ça comme une prière. Je ne me tairai pas au sujet de Jérusalem. C'est pourquoi c'est ma joie aujourd'hui de vous avoir parlé d'elle. La ville que j'aime entre toutes les villes. La ville que je chéris entre toutes les villes. Le lieu que je préfère, là où mes pieds peuvent fouler la terre où mon Messie est passé. Et avant lui, tous les prophètes et les rois et ceux qui sont nos pères dans la foi. Et puis les apôtres. C'est extraordinaire d'avoir ce privilège. Oui, pour Jérusalem, je ne me lasserai point au sujet de Jérusalem jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme l'aurore et que son salut flamboie comme une torche. Amen. Soyez bénis chacun. Recevez des grâces particulières pendant ce qui reste de temps de carême jusqu'à Pâques vous diriger vers cette Jérusalem où vous pourrez trouver paix et guérison de tous vos maux. Amen.
Merci Anne, merci beaucoup de nous avoir emmenés.
Avec joie.
Et puis, bon voyage en une onde prière et à très bientôt, début avril.
Merci.
Au revoir.